Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1, nous sommes en direct de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. Si vous nous rejoignez, sachez que ce matin, on s'interroge sur la place et l'intérêt de la psychologie dans le monde du travail. C'est avec vous, Audrey Franquet, qu'on fait le point sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes DRH, fondatrice de Jimini Conseil et auteure du livre Business Thérapie, publié aux éditions G-Réseau. Audrey, vous dites que les salariés ont aussi un rôle à jouer dans l'environnement professionnel qui les entoure. Vous parliez tout à l'heure des managers, mais est-ce que, même si on n'est pas manager, d'abord, est-ce qu'on peut chercher à comprendre et puis à modifier si ça ne va pas ?
Oui, alors les salariés ont leur rôle aussi, alors pas pour changer forcément un environnement sur lequel ils n'ont pas de prise, mais pour essayer de le comprendre. Mm-hmm. Donc ils ont un rôle à jouer dans la compréhension de leur manager, de leur pair, de leur environnement, mais aussi pour se changer eux.
Oui.
Parce qu'un salarié, on en est tous là, on grandit au fur et à mesure de son expérience professionnelle. Donc charge à chacun aussi de travailler sur son comportement, ses compétences et d'apprendre. Et de travailler du coup son écoute, son empathie, toutes ces aptitudes psychologiques. Par contre, on ne le fait pas tout seul. Et donc, c'est pour ça que c'est important de leur transmettre un maximum de choses. Et ça aussi, c'est le rôle du manager, de transmettre à ses salariés.
J'ai l'impression que ça intéresse d'autant plus les jeunes générations, la psychologie au travail, le bien-être en entreprise. Vous parlez de QVT, qualité de vie au travail. Est-ce que justement, on peut se renseigner avant d'un... Aujourd'hui, on le sait, les jeunes bougent beaucoup dans le monde professionnel, changent d'entreprise plus facilement qu'on le faisait peut-être nous. Est-ce qu'on peut s'intéresser, avant d'intégrer une entreprise, et je ne sais pas, en tout cas, tâter, analyser le degré de psychologie justement dans cette boîte ?
Oui, on peut faire attention à l'entreprise dans laquelle on va se rendre. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qu'on détecte toujours. Donc, c'est important de pouvoir s'adapter.
Qu'il n'y ait pas des petits labels, vous savez, de qualité au travail sur les entreprises.
Ici, on fait de la psychologie.
Ah, il y en a ?
Il y en a. Vous avez des labels, Great Place to Work, par exemple. Mais ça ne fait pas tout.
Ouais.
Donc, c'est pas parce qu'on a un label. Les valeurs. Hein. C'est pas parce qu'on affiche un label ou des valeurs qu'on a.
On se comporte bien. Il vaut mieux le bouche à oreille, à la limite, quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise et qui peut vous dire si ça se passe bien. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des formations de management, d'affirmation de soi, de bienveillance ? Ça développe, ça se développe. Hein. Je vois ça de plus en plus. Est-ce que c'est utile ou est-ce que là encore c'est gadget et ça permet à l'entreprise de se cacher derrière le. Il y a une formation.
Regardez tout ce qu'on fait.
Ouais.
Alors, j'adore cette question.
Décidément.
Essayez de vous fâcher avec personne, mais...
Non, je fais attention. Je trouve qu'elle est importante, cette question, parce que les formations, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Les formations, c'est un socle qu'on va transmettre pour donner quelques basiques. Mais si on veut vraiment que la culture de l'entreprise soit en cohérence après avec, justement, toutes ces notions qu'on a transmises, il faut aller au-delà de la formation, il faut accompagner les gens au quotidien et ça passe par justement un bon management.
Clément ?
Moi, je fais des formations harcèlement en entreprise, donc avec Non Merci Michel, on vient avec des psys, des avocats et c'est vrai qu'on est certifié Calliope et du coup, on a beaucoup de comptes à rendre, entre guillemets, pour prouver que chaque mois, on se renseigne, on remet à jour. Donc, je pense que pour répondre un peu à la question de Julia, certaines formations, sont justement certifiées et légales. Et après, on trouve aussi tout et n'importe quoi.
Il y a aussi des entretiens annuels avec son manager. Est-ce que c'est justement pas le rôle du manager à ce moment-là de jouer un peu le psychologue ?
Oui. Alors, et c'est le bon moment. Pas que à ce moment-là.
Une fois dans l'année, quoi.
Si c'est que au moment d'entretien annuel, ça sert pas à grand-chose. Alors, c'est le rôle du manager, mais encore faut-il l'avoir formé, le manager. Il faut qu'il sache s'y prendre. Et ça, c'est aussi le rôle de la RH.
Et si on a un problème avec son manager, on fait comment ?
Il faut aller voir encore au-dessus, j'imagine, c'est ça.
Ou la RH.
Ouais. Vous parlez notamment dans le livre d'empathie, une chose qu'on ne met jamais sur son CV. Pourtant, vous dites que c'est une qualité humaine, une soft skill, essentielle dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est un soft skill ? J'ai tellement de mal à le dire. Si vous pouvez nous le franciser d'ailleurs, peut-être, parce que c'est pas possible.
Alors, c'est tout simplement des compétences comportementales.
Eh ben voilà, rappelons ça comme ça.
En français, c'est mieux. C'est des compétences comportementales. L'empathie, c'en est une. Je trouve que c'est la plus importante.
Mais vous n'avez pas peur que les gens qui nous écoutent, qui sont plutôt des gens empathiques, se disent « Oui, mais si je suis un manager empathique, je vais me faire bouffer par mes salariés. »
Alors, justement, parce que je pense qu'il ne faut pas tout confondre. En fait, l'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place de l'autre. Donc, vous avez l'empathie cognitive. Et celle-là, elle n'est pas assez mise en avant. Elle devrait être sur les CV. C'est la capacité de comprendre et d'anticiper ce que l'autre va penser Et l'empathie affective, c'est la
capacité...
C'est
un peu prétentieux, non, de mettre sur un CV. Moi, je suis très...
On peut le mettre
Au-delà du côté, on ne le met pas aujourd'hui parce que ça ne se fait pas, j'aurais presque un peu honte de mettre « je suis empathique ». Vous voyez ce que je veux
dire ? Alors pourtant, plein de candidats le disent en entretien.
Ah oui, c'est vrai. Ils le disent, mais ils ne l'écrivent pas.
Voilà, ça se dit à l'oral, mais en fait, on le dit sans savoir de quoi on parle. Parce que quand on dit on risque d'en faire trop, c'est parce qu'on confond aussi avec la sympathie.
Ça vous fait rire,
Clément. Ah oui, si vous êtes antipathique, ne le dites pas. C'est le conseil qu'on peut vous donner.
Et si vous êtes un sociopathe, évitez de le marquer également.
Aussi. Est-ce qu'il n'y a pas parfois la peur quand même de parler justement de psychologie et donc de ses difficultés? Parce que la plupart du temps, quand ça va bien, bon, on le dit moins, mais quand ça ne va pas, on a du mal à le dire aussi parce que on n'a pas forcément confiance en son manager. Comment on fait dans ces cas-là? Julia le disait, si c'est justement le manager le problème, comment on en parle? Comment on aborde la question?
Alors, c'est tout le problème, c'est que c'est pas normal de pas avoir confiance en son manager.
Oui, mais ça arrive. Hein.
Et donc c'est pour ça qu'il faut les former, les managers, mais les former au sens large, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut les accompagner pour que eux sachent créer le bon climat de confiance avec leurs salariés, parce que sinon le salarié peut parler aux collègues, il peut parler aux...
Et ça se diffuse, et c'est comme ça qu'une mauvaise ambiance prend racine, c'est bien ça. Eh bien merci, c'est très clair. On vous retrouve dans un très court instant sur Europe 1. On parle de la psychologie au travail ici, toujours en direct du tournoi de Roland-Garros. Ça travaille dur hein, sur la terre battue. On se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Europe 1, je vous le rappelle, qui a la chance d'être radio officielle de Roland-Garros. Nous sommes en ce moment même en studio au pied du cours central et on décrypte toujours ensemble les bienfaits de la psychologie au travail grâce à notre invité. C'est vous, Audrey Franqueux. Vous êtes ancienne DRH, fondatrice de Gemini Conseil et autrice du livre Business Therapy, publié aux éditions Gerresso. Dans le monde professionnel comme ailleurs dans la société, il y a le cas des profils atypiques. Hein, comme les hauts potentiels, par exemple, vous les évoquez dans votre livre, qui passent peut-être souvent inaperçus en entreprise. C'est le rôle des ressources humaines, selon vous, de repérer justement ce type de profil particulier pour que ces gens-là aussi s'épanouissent au travail. Mais c'est pas facile quand même d'individualiser justement la psychologie et la gestion des gens en entreprise. On est un groupe, on est un collectif. On n'a pas tendance à faire ça naturellement dans les entreprises en France.
Non, alors c'est pas facile, mais aussi parce qu'on s'intéresse pas assez justement aux gens. Alors oui, c'est le rôle de l'ARH, mais après, il faut encore savoir de quoi on parle, parce que les profils atypiques, il y en a plein. Il y a plein de cas différents.
Donnez quelques exemples.
Donc, vous avez les HPI dont je parle dans le livre, hein, les hauts potentiels intellectuels.
Les hyperactifs.
Voilà, ils ont tous des mécanismes différents. Alors, ça va être le rôle de l'ARH de les détecter. Mais après, je fais un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est aussi au rôle du manager de savoir les accompagner pour qu'ils soient épanouis. Et donc, il faut les former aussi à ça, les managers.
Et là, du côté des salariés, je pense à l'instant, mais imaginons, je sais que je suis au potentiel depuis que je suis petite. Enfin, non, c'est pas le cas pour moi, Julia, évidemment. Mais si je le sais.
Il y en a qui
ne
savent pas.
Ou, je sais pas, je souffre d'un trouble autistique, ou j'ai quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dire? Parce que c'est pas évident à l'embauche de dire, attendez, je vous préviens quand même, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Moi, je dirais pas l'embauche.
Pas l'embauche.
Pas forcément. Ouais. Et puis, encore une fois, il y en a qui le savent pas eux-mêmes.
Ouais.
Donc, je ne pense pas que ce soit indispensable.
Moi, j'aimerais qu'on parle des environnements toxiques. Parfois, il y a une personne tyrannique qui peut vraiment créer un nœud de vipère dans un service entier. Et ça peut même s'étendre au-delà, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quel est le bon plan d'action selon vous? Alors certes, il y a les formations, mais parfois, ça ne marche pas. Parfois, on a une personne toxique. Qu'est-ce qu'on peut faire?
À part l'éliminer.
Dites-nous si on l'élimine ou...
Alors déjà, peut-être une chose à laquelle on ne pense pas assez, c'est que déjà, il faut essayer de les éviter, ces environnements-là, avant qu'ils existent. Et ça, malheureusement, dans notre société actuelle, on prône tellement l'individualisme, les rivalités en entreprise, que ces environnements-là, ils sont de plus en plus courants, alors qu'on pourrait les éviter.
Mais on peut dénoncer ce genre de fonctionnement toxique auprès de la RH. Comment faire en sorte de faire bouger les lignes, si on est plusieurs à se rendre compte qu'on souffre au travail?
Alors oui, le mieux, c'est d'en parler, qu'on en soit victime ou qu'on en soit témoin. Mais les gens n'en parlent pas forcément, et c'est toujours difficile d'en parler. Et c'est pour ça, je reviens sur les managers, c'est pour ça qu'il faut former les managers pour leur apprendre à détecter ça, même quand on ne le leur dit pas.
Clément Lanoux.
Et tout noter. C'est ce qu'on dit souvent, en fait, c'est pour faire remonter. C'est un peu comme un tribunal, même si c'est que dans l'entreprise. Plus vous avez une manière de prouver que vraiment il y a
un dysfonctionnement,
ça peut être des messages. Et si vous n'avez pas, évidemment, de mail, de SMS, notez vous-même, parce que peut-être
tel
dans
jour,
un an, on vous
redira.
Et vous allez, un peu de la mémoire, elle est.
Oui, après, elle est défaillante. Elle,
exactement, forcément. On se dit, oh, c'est peut-être moi qui. Et en fait, si vous notez tout, c'est plus facile à faire remonter.
Mais là, si on n'est pas un peu psychologue, justement, on ne sait pas le gérer parce qu'on ne sait pas analyser la situation, on ne la comprend pas, on ne sait pas prendre les bonnes décisions. Et c'est important dans ces cas-là.
C'est un peu ce qu'incarne Thomas dans votre livre. Et vous l'expliquez que souvent, ce sont ce type de profils, ce sont ceux qui sont les bourreaux, justement, qui vont, eux, avoir l'impression d'être les victimes. C'est ce qui arrive souvent dans l'entreprise ?
Alors, c'est pas toujours comme ça, mais il y a des cas comme ça, effectivement. Ouais. Donc, ce personnage-là, c'est le cliché du manager toxique qui ne sait pas qu'il est toxique.
Ouais.
Et ça arrive aussi, et c'est encore pire, parce que cette personne-là ne se rend pas compte.
Et comment on fait avec psychologie pour faire comprendre à la victime qu'elle est le bourreau, en fait ? C'est pas évident, ça, non plus.
Justement, c'est pour ça que là encore, il faut un peu de psychologie, parce qu'il faut arriver à faire passer des messages à cette personne-là, lui faire comprendre concrètement ce qui va pas dans son management, éventuellement lui faire accepter un coaching ou autre.
Oui.
Et ça, si on n'est pas soi-même un peu empathique, un peu psychologue, ça on n'y arrive pas.
Oui. Ouais. Parfois, on déteste son supérieur. Et c'est comme en amour, on a tendance à balancer un peu facilement, à dire que c'est un pervers narcissique. Mais est-ce que c'est si fréquent que cela de travailler avec un pervers narcissique ? Comment on fait pour reconnaître ce type de personnalité ?
Je savais pas qu'ils étaient dans le milieu professionnel. Pour moi, c'était quelque chose de personnel, le pervers narcissique.
Ah non.
À la maison, quoi.
Alors, ça existe partout.
Il y en a au travail aussi.
Professionnel aussi. Après, c'est vrai que c'est important de pas tout mélanger parce que je sais pas dire si c'est fréquent. Enfin, ça arrive. Mais c'est vrai que très souvent, on mélange.
Vraiment.
On peut être pervers sans être narcissique, narcissique sans être pervers.
Mais par exemple, quelqu'un qui ne vous encourage jamais, quelqu'un qui ne vous dit jamais.
C'est pas forcément un pervers narcissique. C'est pour ça que je disais, il faut pas tout mélanger parce qu'on peut avoir un manager qui est pas respectueux, c'est pas forcément un pervers narcissique ou qui envoie pas de signaux de reconnaissance, il est pas forcément pervers. Un pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans de la manipulation, qui va. Démolir, décontenancer dans le temps la personne
feu. Clément Lanoux.
J'ai eu un élément de réponse parce que je vis avec une psy et j'ai eu cette conversation.
C'est que je vis avec une pervers narcissique.
Non, avec une psy et elle me disait justement, mais je me posais la même question il y a quelques temps, elle me disait les personnes qui ont besoin de dominer, de soumettre les autres, ils le font aussi bien finalement, c'est un peu les mêmes profils, ils le feront aussi bien dans le couple que dans le travail. C'est les mêmes.
Pour terminer, vous dites qu'il est important de valoriser l'intelligence collective pour améliorer les performances d'une entreprise. En fait, on parle de quoi ? De travail d'équipe ou c'est encore autre chose, l'intelligence collective ?
Alors, non, on ne parle pas de travail d'équipe parce que vous pouvez travailler en équipe sans intelligence collective. Alors ça, on le voit tout le temps en entreprise. Hein, et dans des cas comme ça, on n'est pas efficace. Parce que si vous travaillez en équipe mais que vous ne vous écoutez pas, que vous ne savez pas expliquer votre point de vue, argumenter, ça ne sert à rien. L'intelligence collective, ça passe par déjà l'intelligence sociale individuelle, ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait de mieux apprendre à penser, à écouter l'autre, mais aussi par le fait de mieux communiquer avec les autres, c'est du dialogue. Et ça, on n'apprend pas suffisamment. Alors, on l'apprend aux enfants, et puis après, on ne l'apprend plus aux adultes en entreprise.
Merci beaucoup, Audrey, d'avoir répondu à nos questions autour des bienfaits de la psychologie au travail. On va s'inspirer de tout ça à l'avenir. Merci encore. Et on va surtout changer de sujet à présent, Julia.
Mais oui, Mélanie, on va accueillir les bienfaiteurs d'Europe 1. Tout d'abord, Benjamin Lévesque, notre journaliste beauté, va nous dévoiler ses trucs et astuces pour lutter contre les jambes lourdes. Ça peut servir à cette époque de l'année. Et puis avec Jérémy Combe, notre spécialiste des bonnes manières, on va faire un petit rappel sur le savoir-vivre dans le sport. Nous sommes en direct du tournoi de Roland-Garros. Alors ça tombe bien, restez avec nous sur Europe 1.